steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR, épisode numéro 45, avec toujours Guillaume au micro pour vous accueillir dans cette émission. Et comme d'habitude, à mes côtés, il y a Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Et puis, on va débriefer un peu l'actualité des deux derniers matchs. Parce que voilà, on n'a pas fait de Poundcast la semaine dernière. On va voir que c'était un peu à raison. Et puis on va débriefer tout ça quoi.
Double débrief cette semaine avec on va commencer tout de suite le match à Cincinnati qui a eu lieu dimanche le 7-6 si je calcule bien. Alors un match sur lequel on va passer assez vite parce que c'était vraiment une déroute totale. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce match. Juste quelques chiffres, donc une défaite finale 42-21. Pour être honnête, le score est un peu flatteur, hein, même pour les Panthers. Donc quand tu perds de 21 points et que le score est flatteur, ça vous laisse imaginer un petit peu la réalité du match. C'était plié à la mi-temps, hein. Il y avait 35-0 pour Cincinnati, plus de 240 yards au sol sur la rencontre pour les Bengals. Du côté des Panthers, PJ Walker termine la rencontre, enfin la mi-temps, parce qu'il a été remplacé au retour des vestiaires, à 3 sur 10 pour 9 yards et 2 interceptions. Donc, c'est vraiment une promenade de santé pour Cincinnati et Joe Mixon, hein, notamment, qui fait plus de 200 yards et 5 touchdowns à lui tout seul. Que dire de plus ? Cincinnati s'est permis le luxe de sortir ses titulaires, les principaux titulaires, en cours de 3e quart-temps. Je pense que ça pose aussi les choses. Thomas, je pense que c'est tout simplement un match à oublier.
Ouais, non, très clairement, c'était un peu match, un peu même beaucoup match catastrophe, parce que comme tu dis, voilà, on était déjà à 35-0 à la mi-temps, à ce moment-là, on commence un peu à paniquer, on regarde un peu nos records de plus grosses défaites, donc, c'est... En fait, bon, on n'a pas battu ce record entre guillemets heureusement, mais d'un autre côté, Cincinnati qui a pu se payer le luxe de sortir un peu ses titulaires en cours de troisième quart, c'est quand même significatif du niveau de jeu qu'on a avancé. C'était pas franchement joli à voir. C'est ce qui fait que pour cette semaine, pour ce podcast 45. Le flop pour moi c'était l'équipe entière sur ce match contre Cincinnati quoi.
Si on veut trouver quelques maigres consolations, on dira que Baker Mayfield a fait une deuxième mi-temps plutôt correcte, hein. Il termine à 14 sur 20 pour 155 yards et 2 touchdowns. À préciser quand même que voilà, la défense de Cincinnati à ce moment-là était quand même un peu relâchée. Avec 35 points d'avance, ça peut se comprendre. On pourra retenir aussi les premiers touchdowns en carrière pour Terrace Marshall Jr. et Raheem Blackshear, mais voilà, c'est guère le positif sur ce match-là se résumera à ça. Du positif, il y en a eu beaucoup plus dans le deuxième match qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi face à Atlanta, un match que les Panthers ont remporté 25-15 avec un match que Carolina a mené plus ou moins de bout en bout, hein. Il y avait 13-3 à la pause. Atlanta est revenu un petit peu dans le troisième quart, recollant à 13-9. Carolina s'est redétaché 22-9. Et Atlanta va avoir l'occasion de revenir en toute fin de match pour tenter d'égaliser sur un dernier drive, hein, en revenant à 22-15 à quelques minutes de la fin, mais ils ne vont pas parvenir avec notamment une grosse défense sur ce drive pour Carolina, et donc une victoire finale 25-15. Thomas, est-ce que ce résultat t'a surpris? Est-ce que ça t'a rassuré après le match à Cincinnati? Est-ce qu'éventuellement ça t'a déçu sur le contenu ou globalement est-ce que tu attendais? Quelle a été ta réaction après ce match?
Bah écoute, comme on le dit souvent, c'est comme ça un match de division. Le score final est toujours un peu, voilà, Des fois, c'est peut-être un peu plus difficile à prévoir qu'un match contre un adversaire d'une autre division. Mais non, enfin, on pouvait imaginer une victoire avec un possible sursaut d'orgueil de l'équipe. Mais du coup, voilà, on a eu globalement, ouais, on a dominé quand même le match d'un bout à l'autre. Après, bon, parler de rassurer, c'est quand même difficile sur cette saison, notamment. Mais bon, voilà, c'est une victoire. Bon, après, voilà, c'est que cette saison, les avis sur les victoires ou les non-victoires, notamment pour le positionnement à la draft, voilà, ça va faire encore un peu débat et ça risque de soulever les foules, on va dire. Mais globalement, non, voilà, on pouvait imaginer une victoire, donc c'était pas spécialement choquant, d'autant plus que en face, voilà, c'était quand même une équipe d'Atlanta qui a un peu bégayé, notamment avec un Marcus Mariota qui a tenté de nous faire une passe à la Patrick Mahomes, sauf qu'en l'occurrence, bon, il a touché le sol avant, mais ça aurait fait une très belle interception, quoi. En passe un peu merguez, c'était une jolie performance.
Ouais, grosse défense, conditions de jeu difficiles parce qu'il pleuvait beaucoup, donc ça a favorisé le jeu au sol, qui était de toute façon un petit peu le plan de jeu des deux équipes. Mais surtout, voilà, Carolina qui a pu un petit peu redresser la tête. Tout était un petit peu prévu pour, hein, puisque c'était la tenue Black Knight, je ne sais plus comment il l'avait appelé, mais en tout cas, c'était, ils avaient sorti la combinaison toute noire avec le casque noir, à qui moi j'attribue mon top de la soirée, parce que c'est vraiment fait quelques années que j'espérais voir un casque noir pour les Panthers, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc voilà, ils avaient fait tout un petit peu de com autour, et ça rendait bien. Donc c'est vrai que c'était d'autant plus intéressant de ponctuer tout ça par une victoire. Après, comme tu le dis, difficile de dire que tout était parfait, notamment en attaque, notamment au niveau du poste de quarterback. On avait dit la dernière fois qu'on prenait un petit peu de temps avant de s'emballer pour PJ Walker, qu'on trouvait qu'il y avait peut-être un petit peu d'enflammade, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, là, je pense qu'entre la prestation à Cincinnati et le match contre Atlanta, certes, ce dernier se solde par une victoire, mais PJ Walker rend une fiche de 10/16 pour 108 yards, avec, sur les 6 passes non complétées, il y en a 3 qui méritaient presque d'être des interceptions quand même, dont une qui aurait pu coûter très cher en fin de match. Je sais pas toi, mais moi je suis clairement pas rassuré, et autant on pouvait espérer que bah, peut-être il y avait un effet post-Matt Rhule, non, en fait, je pense qu'on a juste... Il a eu deux bons matchs, mais là, on a retrouvé un petit peu le PJ Walker auquel on pouvait s'attendre.
Ouais, totalement, totalement, c'est ça. Tu vois, on avait parlé, on avait dit sur le précédent podcast qu'il fallait pas s'enflammer au vu des performances de PJ Walker. Surtout le match contre Cincinnati nous l'a bien confirmé. Et voilà, enfin, c'est aussi une raison pour nous, en fait, de ne pas nous mettre des œillères et nous dire non, faut peut-être qu'on aille chercher quelqu'un d'autre pour jouer un peu quarterback, quoi. Parce que bon, c'est voilà, entre Darnold Mayfield et PJ Walker, bon, on n'a pas été spécialement gâté, quoi.
Ouais, il y avait la question qui se posait de titulariser Walker ou Mayfield. Steve Wilks a choisi de garder PJ Walker. Avec seulement 3 jours de préparation entre les matchs de Cincinnati et celui d'Atlanta, ça pouvait se comprendre. Là, il ne va pas vraiment avoir le choix. Il a déjà annoncé que c'est Mayfield qui serait titulaire, mais c'est juste parce que PJ Walker s'est blessé en fin de match. Donc, il ne sera pas dispo contre Baltimore. Donc, on va rechanger de quarterback en attendant peut-être un retour de Sam Darnold. Mais on sent quand même globalement que même s'il y a peut-être un petit peu de mieux quand même par rapport à ce qu'il a pu montrer l'an dernier. PJ Walker, l'idée c'est quand même de lui faire prendre le moins de risques possible. Il lance quelques belles passes de temps en temps un peu en profondeur, mais c'est pas toujours très sûr. Et voilà, on le disait, presque 3 presque interceptions sur ce match. Il y a un besoin de quarterback qu'on peut pas nier pour le futur. En revanche, ce qu'on n'a peut-être pas besoin, c'est d'un running back, parce que Donta Foreman a encore fait un énorme match. Il termine à 130 yards en 31 courses, un touchdown. Ce qui fait qu'en deux matchs contre Atlanta, il a quasiment 250 yards. C'est pas mal comme total, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que la prestation globale de Donta Foreman ne t'a pas laissé indifférent non plus.
Ouais, non, très clairement, c'est mon top de la semaine en fait. Globalement, voilà, il a réussi à nous montrer des super choses depuis plusieurs semaines. Là, en l'occurrence, il est à plus de 4,1 ou 4,2 yards par course de mémoire sur ce match. Donc non, globalement, c'est ça. On sent qu'il y a de l'impact, on sent qu'il y a de la volonté de courir. C'est un joueur qui est assez physique. Donc globalement, ouais, c'est ça. Ben, j'en avais déjà parlé dans le podcast précédent, mais globalement, ouais, c'est une des bonnes surprises, une bonne surprise et une bonne confirmation sur cette saison, quoi. Avec une bonne utilisation, beaucoup plus marquée du coup, comme j'avais dit, depuis le départ de Christian McCaffrey. Et c'est quelque chose qui nous a plutôt bien réussi à ce niveau-là.
Ouais, on avait signalé son arrivée à l'intersaison comme quelque chose de plutôt appréciable. Et on était un peu déçus et surpris de ne pas le voir plus, malgré le début de saison, même si Christian McCaffrey était là. Bon ben là voilà, il n'y a plus de raison de plus le mettre. Et ben il récompense les coachs avec de beaux matchs. Pour les receveurs, c'est un petit peu difficile de juger sur ce match-là, hein, puisque avec seulement 100 yards à la passe lancés par PJ Walker, on peut dire un mot quand même de Laviska Shenault, parce que c'est vrai qu'il y a un touchdown, alors qui est considéré comme une course, parce que la passe est vers l'arrière, mais c'est un peu une passe latérale de PJ Walker, donc ça aurait pu compter dans les stats aériennes. Mais en dehors de ça, il y a une grosse réception pour Terrace Marshall, DJ Moore qu'on essaie d'impliquer un peu plus, mais voilà, c'est difficile de juger sur ce match-là. On le rappelle, les conditions météo n'étaient pas non plus favorables à un gros jeu aérien.
Ouais, non, c'est ça. C'est comme tu dis, ouais, les conditions météo n'étaient pas spécialement optimales, mais globalement, ouais, on a quand même réussi du coup à porter le ballon au sol, notamment avec, comme je disais, avec Foreman, et avec Laviska Shenault qui nous met un beau touchdown. Après, le reste du match, bon, il nous a fait un petit drop, mais globalement, au-delà de ça, un bon match de sa part. Il me semble qu'il était revenu il y a pas longtemps de blessure, donc non, c'est plutôt du positif.
Du positif aussi sur la ligne offensive, toujours, hein, qui a confirmé sa belle tenue depuis le début de la saison. Des belles brèches, plutôt une bonne protection. Cameron Irving, qu'on a un petit peu vu aussi, hein, je pense que c'était pour renforcer sur le jeu de course, notamment pour bien ouvrir les brèches. On peut noter un match un peu plus compliqué pour notre rookie Ikem Ekwonu. Moi j'ai vu quelques pénalités de faux départ, de hold, de choses comme ça, mais globalement voilà, il continue son apprentissage. Et voilà, hein, je pense que tu me rejoins là-dessus. La ligne offensive, c'est quand même la belle satisfaction jusque-là depuis le début de l'année.
Ouais, totalement, ouais, totalement. Et du coup, bah pour moi, ça va de pair avec Foreman, quoi. On ouvre des belles brèches, c'est du win-win à ce niveau-là. Bon après, voilà, on sait que d'un point de vue de l'attaque, on sait où ça pêche, quoi.
On a fait le tour, je pense, pour l'attaque. Du coup, on va pouvoir basculer du côté de la défense avec une équipe d'Atlanta qui enregistrait le retour par rapport au match de la semaine 8, le retour de Cordarrelle Patterson, son running back numéro 1. Pareil, un peu limité par le jeu de leur quarterback, les Falcons. Par contre, ils ont eu un jeu au sol moins performant. En cause, le gros impact et la domination globale de la ligne défensive des Panthers face à cette ligne offensive d'Atlanta.
On a toujours un peu des motifs, un peu de satisfaction sur cette défense. Mais bon, après, voilà, il y a. Voilà, on a quand même toujours des super éléments, notamment avec Derrick Brown. On en parle beaucoup depuis le début de la saison. Après, on parle beaucoup des mêmes joueurs dans les derniers podcasts, mais d'un autre côté, c'est des joueurs qui ont vraiment un impact, et qui permettent en fait de fixer la défense. Derrick Brown fait un bon match. À côté de ça, au début, on a eu un peu un Brian Burns qui est un peu passé un peu au travers, mais non, sur le reste du match, globalement, ça a plutôt été, quoi.
On a retrouvé aussi Frankie Louvou dans son rôle un peu de blitzer, là où il est plus à l'aise et plus performant, notamment, je trouve. Voilà, peut-être qu'il avait besoin d'un petit peu de temps après sa blessure, mais c'est vrai que, autant comme toute l'équipe, tu le mentionnais, face à Cincinnati, c'était pas ça. Là, il s'est retrouvé, on a senti de l'impact et deux beaux sacs pour lui, et toujours son côté energizer de défense qu'on a pu retrouver aussi sur Shaq Thompson. Ce qui m'amène à une question, j'étais curieux d'avoir ton avis globalement sur les linebackers, ce corps de linebackers donc des Panthers, avec donc autour des deux qu'on a cités, des joueurs comme Damien Wilson, comme Corey Littleton. Est-ce qu'il te satisfait? Est-ce que tu es un peu déçu? Qu'est-ce que tu en penses depuis le début? J'avoue que je suis un petit peu mitigé personnellement.
Mais je suis un peu comme toi, je suis un peu mitigé dans le sens où on sait qu'on a des super éléments, tu vois. On sait qu'on a des joueurs de qualité, du Frankie Louvou, du Shaq Thompson. Mais d'un autre côté, voilà, il y a quand même des petits moments de trou à cet endroit dans les matchs, et du coup c'est un peu problématique parce que c'est des endroits où du coup l'équipe adverse peut pas mal avancer. Du coup personnellement, je sais que je suis vraiment pas contre qu'on aille récupérer un bon linebacker lors de la prochaine draft ou prochaine free agency, ou du moins pendant la prochaine intersaison. Voilà, parce que c'est disons que la ligne défensive est plutôt bonne, mais du coup maintenant il va falloir un peu travailler sur le second rideau pour devenir encore meilleur en défensivement parlant, quoi. Mais c'est vrai que sinon, ouais, je te rejoins, je suis assez mitigé cette saison au global.
Ouais, parce qu'on parle beaucoup du besoin de quarterback offensivement, mais c'est vrai que moi je trouve que le besoin de linebacker en défense est, alors, peut-être pas aussi criant, mais pas loin, parce que les renforts, même depuis deux saisons, hein, sont pas vraiment transcendants, à l'exception de Frankie Louvou, mais qui est peut-être un peu, j'allais dire, unidimensionnel. On a vu sur quelques matchs où il a été question de le placer un peu plus en linebacker traditionnel. C'était moins ça, peut-être moins à l'aise. Donc clairement, ouais, c'est un axe que je voudrais bien voir renforcé, d'autant que contractuellement, Shaq Thompson, il va coûter très cher dans le cap l'année prochaine. Donc il pourrait faire partie des joueurs qui bougent à l'intersaison. Donc on va surveiller ça, mais je pense qu'il faut du sang neuf là-dessus, hein, si on peut trouver un petit côté à améliorer dans cette défense. Il y en a d'autres, hein, notamment dans le backfield défensif, où le retour de Jeremy Chin approche et va faire beaucoup de bien, je pense, parce que je trouve notamment que Xavier Woods, depuis l'absence de son partenaire au poste de safety, c'est très très compliqué, hein. C'est lui que j'ai, moi, identifié comme flop sur ce Poundcast. Enfin, je le trouve pas vraiment tranchant dans le jeu. Et en plus, il prend deux pénalités qui auraient pu coûter cher sur cette rencontre. Donc, il était déjà pas trop à son avantage ces dernières semaines. Et là, ça m'a un petit peu conforté dans l'idée. Je sais pas si toi, tu avais remarqué ça aussi, ou si tu avais vu d'autres joueurs dans le backfield.
Non, ben globalement je suis d'accord avec ton constat, surtout que, enfin, en plus il y a un constat qu'on peut ajouter. Pour moi, on a de la qualité dans ce backfield, mais c'est miné un peu par des petites blessures à droite à gauche. On a eu JC Horn qui a été blessé, on a du Dante Jackson maintenant qui est blessé aussi, on a du Jeremy Chin, bon voilà, avec son rôle un peu comment dire, polyvalent, qui a été blessé sur qui a été sur hier aussi. Donc ouais, c'est difficile de trouver de la stabilité. C'est peut-être quelque chose qui peut être difficile pour un cornerback de rentrer dans une secondary où on a pas mal de rotation. Pour autant, on peut attendre mieux de sa part, parce que les deux flags là qu'il prend, les deux pénalités, elles sont quand même, je pense qu'elles pourraient être évitées très clairement.
Ouais, et puis c'est vrai que les blessures dans le backfield, hein, notamment Dante Jackson, qui dont la saison est terminée après une blessure au tendon d'Achille, ça combiné au fait que les linebackers sont pas vraiment transcendant. Ça laisse quand même des trous hein, pour l'attaque aérienne. Donc là, ça passe parce que c'était Marcus Mariota en face. Mais voilà, on verra face à d'autres quarterbacks, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Un mot quand même sur Marquis Hines, qu'on n'a pas mentionné avec les linebackers defensive end, mais qui fait deux sacs sur le dernier drive, deux sacs clés. Donc voilà, en termes de joueur qui sort de la rotation et qui vient apporter. Moi, j'aime toujours beaucoup Marquis Hines. Voilà,
ouais, donc, moi aussi.
Je trouvais intéressant de le rappeler. Un autre joueur que j'aime bien cette saison et qui dont on avait beaucoup parlé lors du premier match face aux Falcons et dont on va pouvoir reparler ce soir, c'est Eddie Pinheiro qui s'est bien rattrapé. Alors, je ne vais pas dire que c'était un redemption game pour lui, mais il réussit 4 field goals sur 4 avec... On a senti, bon, le premier, il passe avec poteau rentrant. Le deuxième, il est pas loin de passer à côté. Donc, peut-être un petit peu de pression au début. Mais voilà, il termine avec un beau match quand même, hein, même malgré un extra point raté. J'imagine qu'il t'a rassuré un petit peu.
Ouais, mais puis globalement, tu vois, je disais dans le podcast précédent que je trouvais peut-être ça un peu, j'aurais peut-être trouvé ça un peu dur, entre guillemets, de le cut. Après son match raté où il nous fait perdre. Enfin voilà, où il loupe un peu les field goals de la victoire. Pour autant, voilà, j'avais dit c'était pas la peine, je trouvais pas l'intérêt de le virer. Donc voilà, là, il a réussi un peu son retour entre guillemets. Bon voilà, avec un peu de réussite, avec comme tu dis, ouais, ce poteau rentrant et puis le deuxième qui passe tout juste à gauche du poteau droit. Donc voilà, un peu de réussite, mais globalement ça fait partie du jeu et voilà, je suis assez content qu'il soit toujours là. Même d'un point de vue des punts, on est toujours aussi bon et Kerr nous fait un super taf quoi.
Ouais, je pense que Johnny Kerr c'est pas loin d'être la belle recrue de l'intersaison. Et puis pour Pinheiro, c'est vrai que mine de rien, rejouer la même équipe 10 jours après en match heure prime time américaine. Ça devait pas être évident mentalement. Donc voilà, très bien. Enfin, je suis très content pour lui qu'il ait réussi à rectifier ça. Difficile de dire quelque chose sur le coaching. Parce que bah, c'est vrai que voilà, on l'a déjà dit, hein, mais les conditions météo, c'était pas évident pour vraiment développer un gros jeu aérien. Comme on disait par contre, soit il n'y a pas de confiance envers. Enfin, pas trop de confiance envers PJ Walker, mais il y a un besoin d'incuber pour l'avenir, ça me semble relativement évident.
Globalement, ouais, c'est ça, je rejoins le constat, puis c'est un constat qu'on peut établir ouais, depuis, j'ai pas envie de dire depuis quelques saisons maintenant, mais un peu quand même. On sait que le quarterback, c'est vraiment un peu la pierre angulaire. Sans ça, en fait, mais bon, il y a certaines équipes qui réussissent à faire des trucs à peu près potables avec un QB un peu bancal, entre guillemets, mais là, autant nous, on avait une ligne offensive qui était aussi bancale, donc nécessairement l'un plus l'autre, ça arrangeait rien. Cette année, on a essayé de fonctionner un peu avec Baker Mayfield, on a vu que bon, ça n'avait pas fonctionné terrible, donc ouais, non, on sait vers quoi se tourner pour la prochaine intersaison.
Bah Baker Mayfield, justement, on va voir ce que ça donne lors du prochain match donc à Baltimore, match qui aura lieu dimanche prochain. Bon, ça s'annonce quand même un petit peu compliqué pour les Panthers, mais on verra. Je voulais revenir avec toi quand même juste avant de conclure sur les infos qu'il y a eu sur les deux trades refusés par les Panthers à la deadline. On n'était pas trop allé dans le détail parce que voilà, les infos commencent à arriver. Mais donc les Panthers auraient eu reçu de la part des Rams une offre avec deux premiers tours en 2024 et 2025, plus un deuxième tour en 2023 pour Brian Burns. Et de la part des Packers, ils auraient reçu un choix du premier tour 2023 pour DJ Moore. Sur le coup, bon, voilà, on n'avait pas tous les détails des infos. Est-ce que tu comprends cette décision d'avoir refusé ces packages-là? Tu penses que les deux joueurs valent plus que ça? Ou alors, à la réflexion, tu te dis que c'était peut-être pas des offres qui auraient été nécessairement mauvaise à accepter pour Scott Fitterer et les Panthers. Je voulais avoir ton avis là-dessus.
Alors, globalement, je peux comprendre le fait de ne pas les avoir tradés dans la mesure où, bah, si t'as envie de continuer à construire et de reconstruire partiellement, c'est des joueurs autour de qui il faut que tu t'entoures, donc notamment voilà Burns, DJ Moore, Derek Brown comme on parlait tout à l'heure. Maintenant on a un peu de monde sur la ligne offensive autour de qui construire. Tu peux comprendre en fait le fait qu'on ait refusé. Pour autant, pour DJ Moore, je pense que j'aurais été du même avis de refuser, pourquoi pas. Mais sur Brian Burns, l'offre était quand même un peu alléchante avec ouais un premier tour 2024, un premier tour 2025 et un second tour 2023. Franchement, ça m'aurait pas mal fait réfléchir et peut-être qu'il serait parti. Bah, si l'objectif était voilà de permettre la reconstruction de la franchise. C'est totalement du matériel sur lequel se rabattent, quoi.
Ouais, c'est pour ça que je te posais la question, parce que j'adore Brian Burns et DJ Moore, c'est pas la question, mais c'est vrai que si tu te dis ben voilà, on a encore besoin de 2-3 ans pour reconstruire, et que c'est cet argument là qui fait que tu échanges un joueur comme Christian McCaffrey, pour Brian Burns, t'as quand même une offre, avec ça t'as moyen de reconstruire quelque chose. D'autant que bah voilà, tu sais pas trop où vont atterrir chaque tour de draft. Autant juste les deux premiers tours 2024 et 2025, c'est déjà pas mal, mais tu peux te dire bon, c'est un peu loin. Mais là, si tu rajoutes qu'il y avait dedans un deuxième tour 2023, ça commence à faire lourd. Donc voilà, on verra. De toute façon, on saura juste en fonction de ce que ça devient. Mais en tout cas, ça montre que voilà, les Panthers clairement tiennent beaucoup à Brian Burns. Après, rien n'empêche que ça bouge à l'intersaison. Hein. Mais est-ce que cette offre-là sera toujours sur la table? Ça, c'est pas garanti. Mais voilà, je voulais conclure là-dessus, avoir ton avis globalement. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. On se donne rendez-vous du coup dimanche prochain. Donc, je le disais, pour le match chez les Ravens. Merci d'avoir enregistré avec moi.
Bah, merci à toi.
Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir écoutés. Et d'ici là, bonne semaine. Ciao.
Ciao.